Radio-Vaticana.va. Excellente journée à toutes et à tous.
Dans les Hautes-Pyrénées, le Comminges, le Gers, le Béarn, vous écoutez le Tout Info Local. Tout Info Local. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Vendredi à 16h15, messe d'ouverture à la grotte. Samedi à 14h, marche diocésaine au départ d'Arcisac-Aizangles. À 20h30, procession mariale. Dimanche, dès 9h30, rendez-vous pour les enfants à l'église Sainte-Bernadette. À 11h, rassemblement à la porte Saint-Michel. 11h30, Angélus à la grotte. À 13h15, chapelet à la grotte. À 13h30, présentation des orientations diocésaines par Monseigneur Brouvet à la salle Notre-Dame. Et à 15h, messe à la basilique Saint-Pie-X. Renseignements au 05 62 44 28 28 ou sur catholique65.fr. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Bon après-midi avec Radio Présence, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Un point météo avant de retrouver l'actualité locale avec une après-midi qui restera dans l'ensemble très nuageuse. Sur les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Béarn et le Comminges, nuageuse avec des températures qui avoisineront les 16 degrés à Tarbes-et-Lourdes, 17 degrés à Auch et à Pau, 15 degrés à Saint-Gaudens et Bagnères de Bigorre. Pour demain mardi, c'est vraiment une belle journée, une journée assez bien ensoleillée avec un temps sec et de belles éclaircies, 6 à 7 degrés pour les minimales, 17 à 18 pour les maximales. Mercredi et jeudi, eh bien, du grand soleil avec des températures qui vont atteindre les 20 degrés. Voilà les prévisions de Météo France. Bon après-midi avec le journal local et Luc Vidal-Giraud.
Radio Présence, le tout info local.
Le budget des Hautes-Pyrénées a été adopté à une large majorité. Il est marqué au dire de Michel Pellieu, président du conseil départemental, par une triple ambition. Pas d'augmentation des impôts et de la dette, maîtrise des dépenses de fonctionnement et enfin poursuite des investissements. C'est, a-t-il dit, le budget d'une collectivité qui refuse de renoncer malgré la diminution des dotations de l'État. Le CD65 a décidé donc de ne pas augmenter le taux du foncier bâti pour la cinquième année consécutive. L'ambition affichée est aussi de ramener la dette à 15 millions d'euros. Enfin, côté investissement, 63 millions d'euros leur seront consacrés. Les routes sont concernées au premier chef avec notamment la réalisation de la bretelle de Louey ou encore la sécurisation de la route des Gorges de Luz. Dans le domaine scolaire, les investissements concerneront la réhabilitation des collèges Masset, de Tris-sur-Baïse, d'Arreau et de Séméac. D'importants chantiers vont également être lancés dans les deux cités scolaires de Vic et d'Argelès-Gazost. Des travaux vont également être engagés dans les abbayes de l'Escaladieu et de Saint-Sever-de-Rustan, toutes deux propriétés du conseil départemental. Enfin, dans le domaine social, le département participera à la reconstruction des EHPAD de Castelnau, Rivière-Basse et de Cantaous. Plusieurs motions ont également été adoptées au cours de cette séance. Elles concernent notamment le maintien du train de nuit, la Palombe Bleue, et la signature d'un nouveau protocole sur la carte scolaire pour geler les retraits de poste. La sénatrice des Hautes-Pyrénées, Josette Durieux, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères au Sénat et membre du Conseil de l'Europe, annonce la prochaine création dans les Hautes-Pyrénées de la Maison de l'Europe des Pyrénées. Elle prendra cadre dans la Fédération des Maisons de l'Europe. Il en existe aujourd'hui 35 en France. Les Maisons de l'Europe ont pour vocation de répondre à toutes les questions que les citoyens se posent sur l'Europe. C'est demain dans les Hautes-Pyrénées l'ouverture à Lourdes de l'Assemblée plénière de printemps de la Conférence des évêques de France. Elle se tiendra à huis clos jusqu'à vendredi. Comme dans beaucoup d'autres diocèses de notre pays, la nouvelle campagne du denier de l'Église débutera dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron à l'occasion du prochain dimanche des Rameaux. Les fidèles sont présents en nombre aux célébrations, c'est donc la possibilité de les mobiliser. C'est important car les dons collectés l'année dernière en 2016 ont chuté de 11% dans les Pyrénées-Atlantiques, soit près de 300 000 euros. Cette baisse des dons s'explique principalement par un recul du nombre de donateurs, il s'élève à 15%. Il faut donc trouver de nouvelles ressources. Le denier demeure en effet la ressource majeure de l'Église. Il sert à payer les 160 prêtres actifs dans le diocèse et tous les laïcs qui interviennent pour lui. Pour attirer de nouveaux donateurs, l'Église du 64 va notamment lancer une campagne de recrutement par téléphone, une campagne très ciblée. Elle visera par exemple les abonnés à des journaux chrétiens, mais aussi les 50-65 ans issus du baby-boom, considérés comme plus susceptibles de donner. L'objectif pour cette campagne 2017 est d'atteindre les 3 millions d'euros. François Bayrou était hier dimanche l'invité de l'émission politique de Radio J. Le maire de Beau et président du Modem a notamment déploré que le candidat de la droite, François Fillon, s'enferme dans la théorie du complot en accusant François Hollande d'être à l'origine des fuites dans la presse sur ses affaires. Je pense simplement, a-t-il dit, qu'il s'est mis dans une situation impossible, intenable, dont il aurait dû tirer les conclusions depuis déjà longtemps. Il est responsable de la situation créée et plus encore sont responsables ceux qui l'ont poussé à rester. Fin de citation. À noter sur vos agendas, la conférence débat organisée mercredi 29 mars à Argelès avec pour thème le bien vivre ensemble. L'intervenant est Jacques Abadi, maître de conférence en sociologie à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Rendez-vous à 20h à la salle de la terrasse, c'est à Argelès-Gazost. Top 14 de rugby, le week-end n'a guère souri à Pau. La section a été battue chez elle au stade du Hameau par La Rochelle, plus que jamais en tête du championnat. Et puis en Pro D2, large défaite d'Albi à Biarritz, 38-9. Et puis il va vite. Très vite, le Tarbais Bastien Montes est devenu champion du monde du ski de vitesse à l'occasion des épreuves disputées ce week-end en Suède. Il a été chronométré à 178,93 km/h. Pas de radar en vue.
Les visages de l'église en Bigorre. Anne-Rose Jankovic.
Ce week-end, 130 jeunes bigourdans vont vivre le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes en se mettant au service des personnes malades. Camille et Gonzague Damio-Dainville sont chargés de les encadrer et de les guider tout au long de ce week-end. Ils ont préparé pour ces jeunes un programme bien particulier. Ils nous en parlent maintenant au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Camille et Gonzague Damio-Dainville.
Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes aujourd'hui tous les deux dans les studios de Radio Présence à Lourdes parce que vous êtes responsable du groupe des jeunes hospitaliers du diocèse de Tarbes-Lourdes. Le pèlerinage de la Bigorre approche, hein, c'est dans quelques jours. On imagine tout le travail que vous avez à faire pour accueillir tous les jeunes hospitaliers, 130 jeunes hein, cette année, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Voilà. On va commencer par parler d'eux, justement. Ces 130 jeunes qui vont venir pour servir pendant le pèlerinage de la Bigorre, qui sont-ils? Quel âge ont-ils? D'où viennent-ils? Camille.
Eh bien, donc ils viennent de la Bigorre, donc du pays, de tout le diocèse, de tous les groupes de jeunes, que ce soit le MEJ, le scoutisme, MRJC, les aumôneries, même les petits groupes de confirmants qui se sont formés au cours de l'année, les cours de paroisse, les petits groupes de paroisse, et puis des individuels aussi. Quand il n'y a pas d'aumônerie ou pas de groupe, eh bien, ils ont eu vent de ce pèlerinage et ils s'inscrivent individuellement.
Et sur une tranche d'âge qui va de 13 à 17 ans.
Oui, il y a un âge quand même minimum, parce que c'est assez physique le pèlerinage. Il faut d'être au service,
oui,
pour être jeune
temps,
hospitalier.
Il y a des temps, effectivement, où il y a du brancardage. Et donc, voilà, il faut être en mesure d'accompagner une personne malade sur son fauteuil.
Ah. Et oui. Ce qui est très beau, quand on dit 13-18, même 13, enfin au-delà, 13-17, mais au-delà, c'est qu'il y a des grands frères, forcément, enfin des aînés qui vont aider les plus jeunes. Donc ceux qui ont 13 ans, ils vont être doublés, entre guillemets, ils vont être
Vous voulez dire que ceux qui sont venus l'an passé reviennent,
parce évidemment.
Qu'ils ont adoré, donc ils reviennent.
Voilà, et puis il y a une sorte de binômage qui se forme, et les grands hospitaliers, les grands jeunes hospitaliers aident les plus jeunes.
Tous les mouvements ou services que vous avez évoqués, Camille, sont des branches quand même très diverses. C'est quand même incroyable, tous ces jeunes qui viennent d'horizons profondément différents, même oui. On peut dire de spiritualité différente aussi, oui. qui se regroupent, qui se retrouvent pour vivre la même chose en un week-end. Quel programme vous leur proposez pour que ça colle
et pour qu'il y ait une unité?
Oui.
Ils vont se retrouver sur trois pieds. Le week-end est équilibré sur trois pieds. L'amour du prochain, c'est ce à quoi on pense tout de suite parce que ça va être le service. C'est un des premiers pieds. Et alors là, les jeunes sont généreux à cet âge-là. Il faut pas les arrêter. Et donc, on leur propose évidemment de se mettre tout de suite au service du malade, de brancarder. Le service, c'est aussi l'écoute. C'est tous les chants qu'on va faire dans les chambres, dans les salles à manger des malades. C'est les cadeaux qu'on va échanger avec eux. Tout ça, c'est l'amour du prochain, le service. On va aussi créer cette unité de groupe autour du Seigneur, qui est un. Donc l'amour de Dieu, et on a prévu des temps magnifiques parce que c'est autour de la merveille qu'est le Seigneur. Donc les messes qu'on va vivre avec les malades et avec les jeunes, une adoration qu'on a prévue avec Monseigneur Brouvel samedi après-midi. Et puis, on aimerait aussi gâter les jeunes de présence de prêtres. Donc, là, le père Jean-Gabriel, qui est aumônier des jeunes hospitaliers, a appelé tous ses copains prêtres qui vont venir et qui sont vraiment contents d'être au service du jeune. Et voilà, donc le jeune va rencontrer le Seigneur par ses prêtres, par l'adoration, par la confession, par la messe. Et puis, troisième pied du triptyque, eh bien, on aimerait que tous les jeunes qui soient là trouvent aussi leur unité parce que eux, en eux, ils sont un. Et donc, ça va être aussi le samedi après-midi et un petit peu le vendredi soir, les aider à se rendre compte qu'ils sont merveilles de Dieu et donc qu'ils aient un temps pour eux, pour se dire, ben, je suis une merveille, j'ai reçu des merveilles.
Voilà, là on sent bien l'écho du thème d'année, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Oui. En fait, vous allez les nourrir aussi, ces jeunes. Ils viennent, vous les appelez pour qu'ils servent et en même temps, il est nécessaire de les nourrir.
C'est un tout, oui, c'est un tout.
C'est-à-dire qu'on a souhaité que ce soit un pèlerinage, parce qu'auparavant, peut-être que les jeunes venaient pour brancarder, mais on s'est dit, voilà, il faut plus pour les jeunes, il y a besoin de plus. Ce que vous disiez tout à l'heure avec le fait que ce soit des sensibilités, des groupes de jeunes très différents qui se réunissent, c'est aussi un peu l'esprit des JMJ, et c'est comme ça que Mgr Brouvet nous a demandé d'organiser ce temps. Donc c'est pour ça qu'on souhaite avoir des moments festifs avec les jeunes, parce que les jeunes et les plus anciens aiment faire la fête, mais peut-être les jeunes un peu plus. Une fête avec du mouvement, c'est-à-dire qu'il y aura, on a prévu un temps où on va danser, des danses bigourdanes. Et puis on a aussi prévu un temps où on va vivre des activités sportives le samedi après-midi. Voilà, de manière à ce que les jeunes aient une harmonie entre la vie spirituelle et puis le développement aussi du corps.
En fait, vous leur proposez de faire la fête. Grosso modo, c'est un peu ça.
Oui, de faire la fête autour des malades, avec le Seigneur autour des malades. Alors, exactement, très, très bon résumé.
Mais non, mais c'est vrai, alors on dit souvent que le dimanche du Pélé, de la Bigorre, voilà, où toute l'église diocésaine se retrouve pour cette messe qui est vraiment le point d'orgue du pèlerinage, hein, le dimanche après-midi, on dit toujours que c'est la fête, que c'est le jour de fête du diocèse. Là, en fait, ces jeunes, ils vont commencer la fête dès le vendredi, hein, si bien, jusqu'au dimanche après-midi. Forcément, ils ne vont pas ressortir de là indemne entre le service, la prière, c'est, bon, le sport, comme vous dites, la danse bigourdane, ça laisse pas indemne tout ça.
Voilà. Ça ne nous appartient pas. Nous, on remplit notre mission de préparer ce pèlerinage. Ensuite, c'est le Seigneur qui va faire les choses, c'est les animateurs qui sont autour de ces jeunes aussi. On est très gâtés, hein, parce que les animateurs qu'on a reçus vendredi dernier, là, en réunion, c'est extra de les voir hyper généreux, dispo, préparer ce pèlerinage, encadrer leurs jeunes, les motiver.
Et mobilise combien de personnes ? Un groupe comme ça de 130 jeunes qui sont quand même 13 ans, c'est quand même très jeune. Et puis, c'est pas forcément l'âge
vingtaine d'accompagnants.
Oui. Dans notre équipe d'organisation, on est une dizaine. Et ensuite, il y a chaque groupe a son animateur ou 16 animateurs. Donc, on va dire effectivement 20. Ensuite, comme il y a des individuels, on a demandé à des encadrants de venir en plus. Hein, donc, deux ou trois encadrants. Et puis, on aura d'autres adultes qui ne seront là que pour écouter. Voilà, on a 5 écoutants qui auront un brassard de couleurs, et on expliquera ça aux jeunes le vendredi soir, et bien pour que justement ils puissent aller vers eux, que les jeunes puissent aller vers eux, ces écoutants, se confier, ceux qui ne sont pas prêts à se confesser avec un prêtre, qui peut-être une première démarche.
Pour vider leur sac,
c'est ça, pour avoir un témoignage peut-être aussi, pour...
Voilà. On peut dire un mot de la collaboration avec l'hospitalité de Bigorre. Alors là, les hospitaliers adultes, hein, pour le coup, qui sont aussi au service des personnes malades tout au long du pèlerinage. Là, ces jeunes, ils vont avoir à collaborer avec ces hospitaliers plus anciens. On peut évoquer ça quand même, parce que c'est beau aussi de voir ces jeunes qui arrivent, qui ont tout à apprendre, à découvrir, et qui vont certainement être pris en charge par les hospitaliers qui ont de l'expérience.
On collabore, je dirais, on sert en fait. On est au service de cette hospitalité adulte, parce que on vient renforcer leur équipe.
Oui. Voilà. On est au service, et puis on voit dans les temps de préparation qu'ils sont aussi à notre service, et c'est très beau. C'est-à-dire qu'on est au service les uns des autres. Là, quand on a besoin, quand on a une interrogation, on appelle le président de l'hospitalité adulte, et on se facilite les choses, et on sent vraiment qu'on est dans un esprit de service, et c'est très beau, quoi.
Ouais, c'est familles, important, hein. Voilà, de pas cloisonner.
Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, ces jeunes hospitaliers sont peut-être appelé à devenir, à intégrer l'hospitalité.
C'est ce qu'on souhaite. Et il y a une transmission qui se vit pendant ce pèlerinage. Lorsqu'il y a des jeunes qui vont aller servir le repas à un malade, c'est pas inné. C'est-à-dire qu'il faut être accompagné. Et donc il y a une transmission de ce service. Et ça, c'est magnifique.
Donc quand on montera dans les étages pour aller chercher nos pèlerins malades, eh bien il y aura ce lien entre les hospitaliers adultes et les jeunes. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs réunions avec les adultes. C'était formidable parce qu'on se sentait dans une famille avec plusieurs générations. Parce qu'il y en a, je crois qu'il y a toutes les générations. Et ils ont bien apprécié aussi cette ambiance-là.
Ouais.
Voilà, de famille.
Avant de vous laisser repartir vers tous ces préparatifs pour le pèlerinage, un petit mot sur vous quand même. Parce que, alors, si vous êtes venus tous les deux aujourd'hui nous parler des jeunes hospitaliers, c'est parce que cette mission de responsable des jeunes hospitaliers, vous l'avez acceptée en couple, en famille même. C'est une mission que vous portez aussi avec vos enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi d'abord vous avez accepté cette mission qui doit vous prendre un temps fou?
Ça, on le dira pas.
On a tous les deux été très marqués par le scoutisme, donc où on apprend à servir son prochain et notamment à être attentif aux plus petits, aux plus jeunes. Et puis on a aussi tous les deux vécu des temps de service auprès de personnes fragilisées, voilà. Et on a envie de vivre ça en famille. C'est quelque chose qui nous rejoint. On a envie de vivre ce temps avec nos enfants et d'accompagner nos enfants dans ces premiers pas du service.
Et au moment où on se disait avec Gonzague, ça serait bien qu'avec les enfants, on aille brancarder, mais pour les tout petits, il n'y a pas, en fait. Parce que nos enfants ont entre 3 ans le dernier et bientôt 12 l'aîné. Et Monseigneur Brouvet, je ne sais pas si son ange gardien lui a dit quoi que ce soit, mais il vient nous dire, tiens, vous ne viendriez pas comme famille au cœur du pèlerinage des jeunes de Bigorre, juste pour être famille, une génération supplémentaire, deux générations. Et donc on a été enchantés, on a vécu l'année dernière ce pèlerinage, et à la suite de ce pèlerinage, on nous a demandé un petit peu plus de recommencer, mais cette fois en prenant... des responsabilités, et il se trouve que Thibaut qui faisait ça avec brio,
Thibaut Desjardins,
voilà, est parti courant de l'été 2016, et eh bien on a du coup dû prendre sa place. Mais c'est super parce que tout l'élan était déjà là. C'est sûr qu'on était un peu novice parce que
et visiblement vous y trouvez beaucoup de joie au visage,
un peu de fatigue. Avouons-le, et on n'est pas à la fin du week-end, mais surtout on a beaucoup effectivement de joie parce que ce qu'on a construit avec l'équipe, avec Monseigneur, on sent qu'il y a vraiment une dynamique, quelque chose de beau qui va se vivre, de grand, de fort, et qui va marquer.
Et les enfants ont hâte de vivre ce pèlerinage.
Pendant le pèlerinage, vous serez avec vos enfants.
Oui.
Et donc, ils vivront tout ça avec vous.
Il y a un des objectifs aussi de ce pèlerinage, c'est que les jeunes soient plus à l'aise ou se sentent capables d'aller vers des personnes fragilisées. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. On veut les accompagner dans cette démarche de contact, de relation avec...
Et le fait d'être en famille, face à ces jeunes, avec ces jeunes, vous pensez que ça facilite le dialogue avec les jeunes, ça vous rend plus accessible au...
Ah oui, moi je suis persuadée que quand il y a des personnes âgées, des jeunes adultes, des enfants, des jeunes, il y a plein de choses qui tombent, plein de barrières qui tombent.
Je pense que ça passe plus par nos enfants que par nous. Enfin, c'est un tout.
Oui.
Mais forcément, les enfants... ils vont avoir une spontanéité que nous, on n'a peut-être pas ou plus ou moins. Et c'est très beau de voir un enfant s'approcher d'une personne malade et juste lui prendre la main ou, je sais pas, lui demander si elle va bien. Bon, un jeune adolescent, peut-être qu'il n'aura pas cette spontanéité. Mais le fait de voir que c'est possible, et que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, bah, ça va être un exemple. Et...
Alors, on a voulu par la veillée préparer les jeunes au brancardage et au service, mais peut-être que les enfants le feront encore mieux. La veillée, on a préparé un petit parcours ludique et pédagogique pour que les jeunes soient dans le fauteuil roulant et sentent les difficultés qu'on a quand on est assis dans les chariotes. Et puis, on a prévu aussi un petit temps avec une infirmière qui va parler aux jeunes de la communication non verbale. Parce que c'est pas rien hein, d'arriver près d'un pèlerin qui parle pas, par exemple. Et ensuite, un témoignage d'une personne malade, polyhandicapée qui va leur dire pourquoi elle vient en pèlerinage, qu'est-ce qu'elle attend des jeunes. Voilà, pour faire tomber l'anxiété, pour qu'on aille avec simplicité vers l'autre, vraiment.
Voilà. La simplicité, l'écoute, l'accueil, le service, voilà les maîtres mots un peu de ce pèlerinage de la Bigorre pour ces 130 jeunes hospitaliers que vous allez encadrer, Camille et Gonzague à Mionnaville. Alors on vous souhaite un bon pèlerinage, bon courage. Merci beaucoup, bon pèlerinage à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir Anne-Rose.
Merci Anne-Rose Jean-Convic. Je rappelle que le pèlerinage de la Bigorre, c'est ce week-end à Lourdes. Demain, eh bien, on va parler des enfants, les enfants qui ont un rôle à jouer durant ce pèlerinage. Chaque année, ce sont près de 500 enfants qui viennent vivre le pèlerinage de la Bigorre. Demain, on recevra la responsable de la catéchèse dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui met en place plusieurs activités. C'est demain dans les villages de l'église en Bigorre avec Anne-Rose Jankovic.
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Suivez ce rendez-vous sur Radio Présence. Interview, reportage, retransmission en direct. Radio Présence vous fait vivre ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Présence dans la cité mariale 96.
La passion du Christ à travers les siècles est le thème de la prochaine conférence animée par Jean-Claude Ancet le mercredi 29 mars à 18h30 au théâtre Jean Marmillon à Saint-Gaudens. Jean-Claude Ancet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art. Peut-on dire que la passion du Christ est le thème le plus représenté ?
Effectivement, oui. C'est un thème qui est représenté depuis 2000 ans, pratiquement. On a toujours représenté la passion du Christ et surtout la crucifixion. Mais surtout, c'est un thème qui apparaît beaucoup au Moyen-Âge, hein, dans tout le Moyen-Âge jusqu'au 15e. Et après aussi au 16e, 17e, 18e. Et c'est au 19e que bien la religion a moins d'importance, on peut dire, dans la société. Et il y a moins d'artistes, disons, religieux qui représentent ce thème. Quant au 20e, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout de même.
Lors de cette conférence, vous allez aborder ce thème à travers plusieurs peintres. Voyons-les ensemble. Commençons par le peintre flamand Frans Purbus, qui a peint la scène, un tableau que l'on peut voir au Louvre à Paris.
Oui, c'est un grand tableau, c'est un chef-d'œuvre, c'est un magnifique tableau et qui représente la scène. Donc c'est le début, on peut dire, de la passion. Et c'est dans ce thème de la scène qu'il va inaugurer, on pourrait dire, la Sainte Cène, l'Eucharistie pour les catholiques, la Sainte Cène. Et c'est de représenter le Christ avec les 12 apôtres. Et dans ce tableau, on voit de dos Judas qui tient une bourse et qui va trahir le Christ. Et le Christ lui dira cette phrase le pain que je tremperai dans le vin, quoi, pour faire l'Eucharistie, la Sainte Cène, eh bien c'est celui qui me trahira. Et c'est Judas qui avait pris le pain et il va sortir et il va trahir Jésus un peu plus tard.
En 1590, l'oraison dans le verger de Gréco.
Alors l'oraison dans le verger, c'est un chef-d'œuvre, magnifique chef-d'œuvre du Greco, un peintre espagnol du 16e siècle, un grand chef-d'œuvre. C'est un paysage irréel, c'est une atmosphère un peu sombre avec des jeux de lumière et l'ange qui tend la coupe à Jésus, et c'est le début de son agonie, de son angoisse quand il est dans le jardin de Gethsémané. Les apôtres qui devraient prier sont là à dormir, et on voit souvent dans les tableaux les trois qui dorment, Pierre, Jacques et Jean, les autres également, et trois fois de suite Jésus va les réveiller pour qu'ils puissent vraiment le soutenir dans ce jardin et dans cette passion qui commence.
Giotto.
Alors Giotto, c'est très intéressant pour Giotto, peintre italien, car il représente la trahison de Judas. Et ce qui est très beau dans cette peinture, c'est que l'on voit la confrontation de Jésus avec Judas, qui a une tête un peu simiesque, hein, qui a une tête très pas belle du tout, et puis la tête très digne du Christ qui le regarde dans les yeux. Il y a un jeu de regard très très intéressant dans cette arrestation, dans ce baiser de Judas de Giotto.
En 1660, le reniement de Pierre de Rembrandt.
Alors, 60, oui, c'est ça, nous sommes là au XVIIe siècle avec Rembrandt qui a énormément représenté des scènes du Christ, de la Passion et d'autres scènes religieuses. C'était un protestant, donc très attaché à la religion. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Quand on le voit, le Christ est aussi l'interrogation à Pierre de savoir s'il connaissait Jésus. On voit Jésus dans le fond, dans une pièce, alors que là, ça se passe dans la cour. C'est une servante qui lui demande, mais tu connais cet homme, etc. Non, je ne le connais pas. C'était cette trahison qui commence. Et trois fois de suite, on va lui demander s'il connaissait Jésus, et il va renier son maître. Judas le trahit, et Pierre va le renier trois fois, et le coq va se mettre à chanter, mais Jésus l'avait averti, hein. Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois.
En 1667, le Christ devant Pilate du Tintoret.
Alors ça, c'est une peinture tout à fait exceptionnelle qui se passe, on peut dire, dans un palais vénitien. Tintoret a fait 8 peintures sur la Passion qui se trouve à Venise. Et là, on voit le Christ dans une grande robe blanche et devant lui, Pilate qui est en train de se laver les mains, qui veut pas prendre parti. Hein. Tu es injuste, oui, je reconnais aucune faute en Jésus. Il reconnaît qu'il a rien fait. Mais n'empêche qu'il sait très bien que s'il se lave les mains et qu'il dit « moi, occupez-vous de lui », que ce sera la crucifixion. Donc Pilate est très responsable de la mort de Jésus.
De nombreux tableaux représentent les châtiments infligés au Christ, parmi eux le couronnement d'épines de Titien.
Alors ça, c'est aussi un thème qui revient souvent chez les peintres, parce qu'on voit les bourreaux qui sont en train de flageller Jésus, soit il est attaché à une colonne, soit on lui tape sur la tête, on lui met une couronne d'épines, on va l'habiller d'une tunique rouge, donc le rouge ressort, et notamment dans le tableau que je présenterai. Et Titien a été un des artistes qui a représenté plusieurs scènes d'ailleurs de cette flagellation du Christ, et c'est bien sûr des scènes terribles, quoi, que l'innocent va payer très fort. Voilà, son innocence, on pourrait dire.
Revenons à un peintre dont nous parlions au début de cette interview, Gréco, avec une des créations les plus originales de Gréco, le partage de la tunique.
Oui, le partage de la tunique, c'est après la montée au calvaire. Bon, il faudrait bien sûr parler de cette montée au calvaire, souvent représentée dans la peinture. Et quand il arrive au sommet, le crâne, au sommet du calvaire, on va lui ôter sa tunique. C'est une tunique rouge, indigo, chez Gréco. Et là, on voit les soldats, enfin, qui lui ôtent cette tunique, qui lui arrachent cette tunique. Mais le tableau est un magnifique tableau. Le Christ tient toute la peinture. Il y a un jeu de lumière par derrière. Il y a les bras du bourreau qui se croisent avec le bras du Christ, et ça représente déjà une croix. Et quelques temps après, bien sûr, on le met en croix. Alors je voudrais dire que là, bien sûr, c'est une peinture dans le 16e, 17e, bon, des tableaux de Rembrandt, mais bien sûr il y aurait d'autres peintures qui seraient dans les siècles suivants. Je pense à Delacroix. Baudelaire disait que c'était le seul grand peintre religieux de son époque, hein. Bon, ça veut dire qu'il y en avait pas tellement, mais enfin il y en avait quand même encore. Et Delacroix va présenter la Passion du Christ dans le jardin, le Christ qui souffre déjà dans le jardin de Gethsemane. Il représentera aussi des croix. Mais je voudrais signaler que dans le 19e, il y a un grand, grand artiste que personnellement j'aime énormément, puisque c'est un peintre abstrait. Il s'agit de Manessier, qui représentera 4 passions, la Passion selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, enfin Saint Luc, toutes les passions, dans des peintures abstraites, et des peintures qui sont magnifiques. Mais on ne voit plus de personnages, on ne voit pas de Christ en croix, on ne voit pas Gethsemane, on ne voit pas de... Voilà, c'est uniquement par la couleur, la peinture et la lumière que cette passion est représentée par Manessier. Donc je terminerai ma conférence par quelques peintures de Manessier.
La Passion du Christ à travers les siècles est le thème de votre prochaine conférence, Jean-Claude Ancet. Elle a lieu le mercredi 29 mars à 18h30 au théâtre Jean Marmignon à Saint-Gaudens. Merci.
Merci.
Dans les Hautes-Pyrénées, le Comminges, le Gers, le Béarn. Vous écoutez le Tout Info Local. Tout Info Local.
Bonjour à toutes et tous. Le lundi, au soleil, pour annoncer les résultats du week-end, il a brillé, le soleil pour certains, pour moins pour d'autres. Alors que s'est-il passé sur la planète football? Pour commencer, on y va. Alors tout d'abord en national, l'équipe de Pau n'a rien fait malheureusement, elle s'est inclinée du côté de Sedan, battue par Sedan 2-0 et Pau reste 15e. En CFA, Tarbes partage les points du côté de Sète, c'est bien 0-0, c'est une assez bonne opération on va dire, certainement un peu moins pour cette équipe de Pau. À Midi-Pyrénées, eh bien nous avons joué en DH, eh bien Auch a battu Toulouse Métropole 3-0, c'est un très très bon résultat. En attendant, je vous invite à découvrir ce qui s'est passé tout de suite en DHR avec la formation de Florence. Je crois que nous avons avec nous l'entraîneur Gilles Garcia. Gilles, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc Florence, ce week-end a frappé, je trouve moi personnellement, assez fort, même si on n'a pas assisté au match, vous allez pouvoir nous en dire deux mots. Victoire 4-0, c'est pas contre le dernier, c'est contre le quatrième, dans une équipe de haut de tableau. Vous êtes sur un petit nuage là.
Ouais, petit nuage, je n'irai pas si loin, mais il y a un point de quart avec le second.
Oui, mais donc, vous faites un super parcours, je dis, c'est ça. Ah bon, après, bon, derrière, ouais, ça avance derrière.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une poule assez homogène qui va être très compliquée en bas de tableau comme en haut de tableau, mais c'est vrai que le résultat est net et sans mesure. Et je pense que sans un grand Pereira, leur gardien de but, l'addition aurait pu être un peu plus salée.
Voilà, donc cette victoire ne souffre d'aucune contestation. Votre position, comme vous dites, bon, vous battez quand même assez nettement une équipe qui était quatrième. Quelles sont les équipes qui vous talonnent et qui sont les plus dangereuses, si on peut employer ce mot?
Oui, ouais, je pense que Montauban a été écarté, je pense, désormais avec leur défaite à la maison contre Ossonne. Hein, Ossonne qui a frappé fort, d'ailleurs.
Oui.
Et ensuite, Fonsorbe aussi, qui sera mal gagné, qui est dans une bonne dynamique. Donc, voilà, Fonsorbe est à un point de nous, Fonsorbe à 5. Donc, voilà, ça va se jouer, je pense, avec ces trois équipes-là.
Dans votre tête, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous pensez? Ça va donner quoi? Ouais. On se projette, allez, deux mois plus loin, ou un mois et demi plus loin.
Ben écoutez, on est un peu chaudé. L'année dernière, on a 6 points d'avance en 10 journées de la fin. On a littéralement explosé. On finit 4e. Donc on reste méfiant. Maintenant, bon, voilà, les non-dits ne peuvent plus être présents. Les joueurs sont motivés. Enfin, samedi, ils ont attaqué le match par le bon bout. Après cette défaite à lui, logique, défaite certes, mais voilà, on s'était dit qu'il fallait rebondir. Et voilà, on est un groupe qui a besoin de prendre des gifles. On a pris une grosse albi et je pense que derrière, voilà, on a bien rebondi et on va tout faire pour être au bout, forcément. Maintenant, on a tout ça dans la tête.
Bon, voilà. une équipe avertie en vaut deux, vous le savez, hein, vous êtes nombreux. Du coup,
c'est ça.
Alors dites-moi vite fait, parce que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions. Il y a une refonte des championnats à partir de la saison prochaine. Est-ce que c'est plutôt flou? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Quel est l'objectif là, si vous finissez premier? Allez, imaginons que vous êtes premier. Ouais. Que se passe-t-il?
Concrètement, enfin, bon, on sait qu'il y aura une montée sûre. Après, c'est,
oui,
c'est totalement flou.
Voilà, ça, c'est
bien. Vous avez parlé de deux montées. On n'en sait strictement rien. Et on trouve ça totalement aberrant, d'ailleurs, d'être à ce niveau de championnat et de ne pas savoir où est-ce qu'on va, quoi.
Voilà, vous confirmez ce que certains entraîneurs nous disent. Donc, je voulais avoir un petit peu votre confirmation aussi.
Oui.
Si vous partagez la même chose.
Complètement, on est dans le flou total.
Bon, ben on espère que ça va pas tarder quand même. En tout cas, vous êtes dans le bon wagon, comme on dit. Et puis, on sait pas quel wagon, mais le bon en général. Et
après, ouais, c'est,
voilà,
ça.
C'est ça.
C'est ça.
Allez, merci d'avoir été avec nous. Je sais que c'est un peu compliqué, mais merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Gilles. À bientôt.
Merci,
on suit votre fin de parcours. Au revoir.
C'est gentil.
Voilà. Donc, continue après la Florence, les Gersois qui sont très bien partis. En DHR, mais dans l'autre poule, la poule A, nous avons un peu plus de représentants. Nous avons Tarbes 2 qui a été gagné à Saint-Jean 2-0, Cazères qui frappe fort à Blagnac, victoire 4-1, Auch qui a réussi à s'imposer à portée 3-2, Lourdes qui a fait une super partie hier, 5-0 contre Orlex. Certes, Orlex mal classé, un peu démobilisé, enfin démobilisé quand même pas parce qu'il faut essayer de se maintenir, mais en tout cas Lourdes s'est bien repris, avait besoin de prendre quelques gifles comme à Florence, nous disait Gilles, il faut se ressaisir. Et puis Séméac a été intransigeant, je sais pas quel mot, intraitable du côté du Mirail, ils se sont imposés 6-0. Voilà, donc excusez-nous pour la qualité peut-être du son pour l'interview, c'était un peu limite, mais bon, je pense que vous avez perçu l'essentiel. Allez, on continue avec la PH. Juillan a battu à Balma 1-0 et reste un bon leader. Saint-Jean du Felga s'incline, battu à domicile par Salisman 3-1. Le Ouadour battu par le Fossat 2-0 et Saint-Simon a battu Boulogne-Péguin 4-0. Défaite assez étonnante tout de même de la part des Comminjois. Dans la poule B, Gimont bat Montauban 2-1. 2-2, c'est le score entre Mozac et Lille-Andodon. Et Blagnac va gagner à Vic-Fezensac 1-0. En PL, eh bien, Sousse a battu Mononville 3-1. La Neste et Sainte-Gabelle 0-0. Argelès-Lavedan, le second, va gagner à Rieupelle-Port 2-1. Chez le dernier, il fallait le faire, surtout que Rieu a besoin de points pour essayer de se maintenir. Dans la poule B, il y a eu des matchs remis, arrêtés. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, quelques matchs remis. Est-ce que c'est les fortes pluies du samedi qui ont empêché les matchs de se dérouler? Possible. En tout cas, Plaisance a battu Florence 3-0. Pavie s'est imposé à Guiserix 3-2. 2-2, c'est le match du lundi entre le Comin Saint-Gaudens Football et l'Usperfit qui recevait ce dimanche après-midi. Dans la poule C, Groyer a été gagné à l'île Jourdain 1-0. Ça, c'est étonnant. Et la victoire de Sainte-Christie dans cette poule prégnante contre Fonsorbe. Allez, on passe à l'Aquitaine. Toujours football. En Régional 2, Mourenx a été battu à domicile par Morlas 2-1. En Régional 3, Louis de Béarn, le leader, garde le cap et bat Serein 2-0. Dans la poule C, les Bleuets de Pau et le stade Saint-Médard des Fonds-Majul, un but partout. En Régional 4, l'Étoile Béarnaise s'impose à Pau-Bourbaki 2-1. Saint-Laurent-Bière 1-0 face à Marcellus. Dans la poule E, Roquefort est battu par les Portugais de Pau 5-1, victoire de Lens 2-1 aux dépens de Océan Médoc, et la Jappe de Pau s'est inclinée en Irak 5-1. Allez, on parle toujours en football, mais en Comminges. En Comminges, en excellence, le Cagir et Luchon ont fait match nul 0-0, et les Espagnols du Val d'Aran, le Bossost, a battu le Comminges Saint-Gaudens Football 2-1. En première division, victoire de l'Andorre, de la Barthes et Sacrabos-Savartes, l'ELS, comme on dit, qui a battu ses placards 2-1, pendant le même temps, le premier s'inclinait à domicile, battu par Salisman 3-1. Au classement, l'ELS est en tête en promotion. Un résultat, Montmorin face aux Trois-Vallées, de partout dans la poule A, et dans la poule B, Boulogne s'est imposé à Valentine 4-3. Voilà, après le foot, c'est le rugby avec une page assez courte. Alors, en rugby, top 14, eh bien, Pau a renversé quelques montagnes jusque-là, mais renverser la montagne leader, La Rochelle, c'était un peu plus délicat. La Rochelle est venue s'imposer à Pau 23-13. On voit mal qui c'est qui pourrait arrêter cette équipe. Enfin, pour l'instant, vous savez qu'au rugby, il faut se qualifier dans les quatre premiers. La Rochelle a déjà pris les billets de train ou d'avion, je ne sais, pour les demi-finales. En fédéral 1, Auch qui maintenant pense à sa saison future et surtout à son avenir incertain sur le plan administratif, financier, enfin en tout cas, Auch a rempli son contrat, les joueurs ont fait leur boulot, comme on dit, ils ont battu Nevers 14-3, ils ont battu le troisième, il faut le faire, 14-3. Dans la poule 2, Lombès Saint-Martin à domicile s'est incliné, battu par Saint-Jean de Luz, 34-31, c'est un match où il y a eu quand même des points, des essais, le public a dû être très content. Enfin, Bagnères réussit un super coup en battant à domicile l'équipe de Rouen. Et oui, ils ont battu Rouen 41-35. Là aussi, il y a eu des points. Croyez-moi, en Bigorre ou dans les Hautes-Pyrénées, ça marquait ce week-end. Et voilà, même s'il a plu aussi. Ça, c'était samedi. Allez, après le rugby, vous voyez, page assez courte, on passe au basket. Le basket, eh bien, Cholet à domicile a été battu par l'Élan Béarnais. Bonne nouvelle, l'Élan qui s'impose 76 à 69. En féminine, Ligue féminine, elle ne jouait pas. Les filles du TGB, c'est ce mardi, donc, que mardi 28 mars, que le TGB recevra pour cette dernière rencontre Saint-Amand-Hainaut. Par contre, il joue en nationale masculine 1. Alors, un petit peu déçu, Tarbes Lourdes-Pyrénées se prend les pieds dans le tapis, trébuche à domicile, battu par l'équipe d'Orchy qui s'est imposée 77 à 70 pour Alexandre Casimiri. On n'avait certainement pas prévu cela, mais c'est ainsi, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, en pré-national masculine, Villefranche a battu au sein 93 à 55 et la formation de Lavor bat Castéra Régiomont 73 à 65. En pré-national féminine, la Loubert bat le Grand Ouest Toulousain 56 à 24 et le Nord-Est Toulousain s'incline, battu par Lourdes 59 à 54. En régional 2 féminine, Muret est battu à domicile de 2 petits points par Salisman 52-50. Enfin, Salis du Salade, 52-50. Et Salis est toujours leader. Saint-Aurel s'impose à Haussin 69 à 50. Et Condom est battu à domicile par Eon 74 à 68. En régional 2, masculine, l'Ouest Toulousain est battu à domicile par Tarbes-Union. Je vais vous donner un score, c'est la première fois que je vois un score pareil. Les deux équipes dépassent les 100 points. Tarbes-Union s'impose à l'extérieur 105 à 103. Donc ça a dû être chaud et le public ravi. Décidément, c'était intéressant de voir des matchs ce week-end, que ce soit de rugby ou de basket. Le Toulouse Cheminot a battu au sein 80 à 52. Colomiers à domicile s'incline, battu par Jéguen 75 à 74. Pour un petit point, Colomiers s'incline. Enfin, Séméac a battu Lourdes 82 à 80 dans des scores très très serré et qui donne toute la beauté du sport, toute l'incertitude, le suspense, etc., etc. Donc voilà, tout ce qu'on aime, hein, comme on dit. Un dernier résultat de basket, en pré-région, l'équipe féminine de Saint-Gaudens à domicile a été battue par Vaquier-Boulogne, malheureusement. Victoire de Vaquier-Boulogne, 42 à 38. Allez, pour terminer, un petit mot, un résultat de hand. Alors le hand, bien sûr, c'est Bière handball pour Pyrénées. Eh bien, Bière s'est incliné à Saint-Gratien. Là, je les voyais réussir un bon coup, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout simplement chez le dernier. Mais le dernier, parfois, il est un peu démobilisé. Ou alors, comme on dit, il sort les dents et les crocs et on s'accroche et on fait tout ce qu'on peut. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Saint-Gratien, le dernier, a battu Bière, qui est en milieu de tableau, 8e. Eh bien, Saint-Gratien, 27. Bière 23, voilà, défaite assez, pas énorme, mais défaite tout de même. Voilà les résultats du week-end, il y en a eu pour tous les goûts, j'espère que vous avez apprécié, et surtout si vous êtes supporter d'une de ces équipes qui a été annoncée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et on se retrouve bien sûr vendredi, parce que le week-end qui suit, vous allez voir, on est dans les phases finales, hélas, suspense jusqu'au bout. À bientôt.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shot to men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight?
stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep?
Radio Présence, le tout info local.
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Vendredi à 16h15, messe d'ouverture à la grotte. Samedi à 14h, marche diocésaine au départ d'Arcisac-Aizangle. À 20h30, procession mariale. Dimanche, dès 9h30, rendez-vous pour les enfants à l'église Sainte-Bernadette. À 11h, rassemblement à la porte Saint-Michel. 11h30, Angélus à la grotte. À 13h15, chapelet à la grotte. À 13h30, présentation des orientations diocésaines par Monseigneur Brouvet à la salle Notre-Dame. Et à 15h, messe à la basilique Saint-Pie-X. Renseignements au 05 62 44 28 28 ou sur catholique65.fr. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Bon après-midi avec Radio Présence, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Un point météo avant de retrouver l'actualité locale avec une après-midi qui restera dans l'ensemble très nuageuse sur les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Béarn et le Comminges, nuageuse avec des températures qui avoisineront les 16 degrés à Tarbes-et-Lourdes, 17 degrés à Auch et à Pau, 15 degrés à Saint-Gaudens et Bagnères de Bigorre. Pour demain mardi, c'est vraiment une belle journée, une journée assez bien ensoleillée avec un temps sec et de belles éclaircies, 6 à 7 degrés pour les minimales, 17 à 18 pour les maximales. Mercredi et jeudi, eh bien, du grand soleil avec des températures qui vont atteindre les 20 degrés. Voilà les prévisions de Météo France. Bon après-midi avec le journal local et Luc Vidal-Giraud.
Radio Présence, le tout info local.
Le budget des Hautes-Pyrénées a été adopté à une large majorité. Il est marqué au dire de Michel Pellieu, président du conseil départemental, par une triple ambition. Pas d'augmentation des impôts et de la dette, maîtrise des dépenses de fonctionnement et enfin poursuite des investissements. C'est, a-t-il dit, le budget d'une collectivité qui refuse de renoncer malgré la diminution des dotations de l'État. Le CD65 a décidé donc de ne pas augmenter le taux du foncier bâti pour la cinquième année consécutive. L'ambition affichée est aussi de ramener la dette à 15 millions d'euros. Enfin, côté investissement, 63 millions d'euros leur seront consacrés. Les routes sont concernées au premier chef avec notamment la réalisation de la bretelle de Louey ou encore la sécurisation de la route des Gorges de Luz. Dans le domaine scolaire, les investissements concerneront la réhabilitation des collèges Masset, de Trie-sur-Baïse, d'Arreau et de Séméac. D'importants chantiers vont également être lancés dans les deux cités scolaires de Vic et d'Argelès-Gazost. Des travaux vont également être engagés dans les abbayes de l'Escaladieu et de Saint-Sever de Rustan, toutes deux propriétés du conseil départemental. Enfin, dans le domaine social, le département participera à la reconstruction des EHPAD de Castelnau, Rivière-Basse et de Cantaous. Plusieurs motions ont également été adoptées au cours de cette séance. Elles concernent notamment le maintien du train de nuit, la Palombe Bleue, et la signature d'un nouveau protocole sur la carte scolaire pour geler les retraits de poste. La sénatrice des Hautes-Pyrénées, Josette Durieux, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères au Sénat et membre du Conseil de l'Europe, annonce la prochaine création dans les Hautes-Pyrénées de la Maison de l'Europe des Pyrénées. Elle prendra cadre dans la Fédération des Maisons de l'Europe. Il en existe aujourd'hui 35 en France. Les Maisons de l'Europe ont pour vocation de répondre à toutes les questions que les citoyens se posent sur l'Europe. C'est demain dans les Hautes-Pyrénées l'ouverture à Lourdes de l'Assemblée plénière de printemps de la Conférence des évêques de France. Elle se tiendra à huis clos jusqu'à vendredi. Comme dans beaucoup d'autres diocèses de notre pays, la nouvelle campagne du denier de l'Église débutera dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron à l'occasion du prochain dimanche des Rameaux. Les fidèles sont présents en nombre aux célébrations, c'est donc la possibilité de les mobiliser. C'est important car les dons collectés l'année dernière en 2016 ont chuté de 11% dans les Pyrénées-Atlantiques, soit près de 300 000 euros. Cette baisse des dons s'explique principalement par un recul du nombre de donateurs, il s'élève à 15%. Il faut donc trouver de nouvelles ressources. Le denier demeure en effet la ressource majeure de l'Église. Il sert à payer les 160 prêtres actifs dans le diocèse et tous les laïcs qui interviennent pour lui. Pour attirer de nouveaux donateurs, l'église du 64 va notamment lancer une campagne de recrutement par téléphone, une campagne très ciblée. Elle visera par exemple les abonnés à des journaux chrétiens, mais aussi les 50-65 ans issus du baby-boom, considérés comme plus susceptibles de donner. L'objectif pour cette campagne 2017 est d'atteindre les 3 millions d'euros. François Bayrou était hier dimanche l'invité de l'émission politique de Radio J. Le maire de Beau et président du Modem a notamment déploré que le candidat de la droite, François Fillon, s'enferme dans la théorie du complot en accusant François Hollande d'être à l'origine des fuites dans la presse sur ses affaires. Je pense simplement, a-t-il dit, qu'il s'est mis dans une situation impossible, intenable, dont il aurait dû tirer les conclusions depuis déjà longtemps. Il est responsable de la situation créée et plus encore sont responsables ceux qui l'ont poussé à rester. Fin de citation. À noter sur vos agendas, la conférence débat organisée mercredi 29 mars à Argelès avec pour thème le bien vivre ensemble. L'intervenant est Jacques Abadi, maître de conférence en sociologie à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Rendez-vous à 20h à la salle de la terrasse, c'est à Argelès-Gazost. Top 14 de rugby, le week-end n'a guère souri à Pau. La section a été battue chez elle au stade du Hameau par La Rochelle, plus que jamais en tête du championnat. Et puis en pro des deux, large défaite d'Albi à Biarritz, 38-9. Et puis il va vite. Très vite, le Tarbais Bastien Montès est devenu champion du monde du ski de vitesse à l'occasion des épreuves disputées ce week-end en Suède. Il a été chronométré à 178,93 km/h. Pas de radar en vue.
Bonjour à tous. Ce n'est pas la population qui est à l'origine de l'extinction biologique, a estimé Mgr Marcello Sanchez Sorondo, chancelier de l'Académie pontificale des sciences. Le prélat prenait part à une conférence de presse afin de présenter les conclusions du colloque intitulé « Extinction biologique » qui s'est tenu au Vatican sous l'égide de l'Académie pontificale des sciences et l'Académie pontificale des sciences sociales. L'Académie pontificale des sciences est convaincue que le changement climatique est le premier facteur de l'extinction biologique, a déclaré donc Mgr Sorondo. La carbonisation de l'air à l'origine du réchauffement planétaire, a-t-il fait remarquer, n'est pas due à la surpopulation, mais à l'utilisation de ressources fossiles. Un point de vue défendu tout particulièrement par le géographe et démographe français,